en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il est d'abord un ténor du barreau parisien, un avocat inlassable de la laïcité et de la liberté d'expression. On l'a vu et entendu aux côtés de Charlie Hebdo, de la crèche Babylou, de la société Clearstream ou de Dominique Strauss-Kahn dans le dossier du Carlton. On le connaissait aussi comme scénariste de bande dessinée, BD souvent satirique sur Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, ou financière, par exemple, avec André Amouti et bien d'autres encore. Il a aussi repris le scénario des Pieds Nickelés, ce qui n'a évidemment rien à voir. Et voici qu'on le découvre romancier, avec un livre passionnant entre thriller judiciaire et dystopie philosophico-politique, Tyrannie, le roman de notre invité, Maître Richard Malka, est édité chez Grasset, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Richard Malka.
Bonjour.
Raconter des histoires, c'est une récréation pour un avocat ou ça fait partie du métier ?
Ah non, alors raconter des histoires, pour moi, c'est ce que je fais de plus ancien dans ma vie. Alors que j'ai commencé à me raconter des histoires à moi-même depuis tout petit, mon cerveau fonctionne comme ça. Et puis ensuite, j'ai découvert des milliers d'histoires au travers des dossiers que je traitais, que j'étais chargé de raconter ensuite devant un tribunal, mais c'était pas mes histoires.
Oui.
Et puis ensuite, j'en ai raconté, et là c'était les miennes, dans des bandes dessinées, mais il y avait toujours un filtre, parce qu'il y a un dessinateur, et que au final, bah, vous partagez
l'histoire. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de sauter le pas?
C'est l'aboutissement. Bah parce que là, je suis seul.
Oui.
Ce sont mes histoires. J'en suis totalement responsable. Il n'y a pas de filtre. Et c'est effectivement une sorte d'aboutissement d'un chemin. Mais raconter des histoires, c'est comme respirer. C'est ce qui m'est le plus naturel.
Alors, le fil rouge du roman, c'est l'histoire d'un procès. C'est un milieu que vous connaissez évidemment très bien. Le procès, en l'occurrence, d'un réfugié politique, un pédiatre, qui est jugé à Paris pour le meurtre d'un diplomate de l'ambassade de son pays d'origine, Lastracy. Et l'avocat d'Oscar Rima, c'est le nom de ce pédiatre, s'appelle Raphaël Constant. Et sa mission est claire, obtenir un acquittement. Ce qui semble complètement fou au début du procès, parce que non seulement son client plaide coupable, ça peut arriver, mais il revendique son geste avec une certaine fierté. Il est fier d'avoir tué cet homme. Ça, pour un avocat, au départ, ça sonne vraiment comme une mission impossible?
Ah bah oui, parce que demander l'acquittement de quelqu'un qui revendique son crime, qui est un crime politique, et qu'il commet pour que les projecteurs soient focalisés sur la situation du pays dont il est originaire, ça peut paraître complètement paradoxal, puisque l'homme lui-même dit « je suis un criminel, j'ai tué ». Et j'ai tué parce que c'est un régime tyrannique. Mais en même temps, c'est déjà arrivé. Jaurès, l'assassin de Jaurès, a été acquitté. Il revendiquait son crime de la même manière, commis devant des dizaines de témoins. Et je cite dans le livre d'autres cas de ce type-là. Il y a des situations exceptionnelles où on arrive à faire acquitter quelqu'un qui revendique son crime. Après, je vais pas raconter comment ça se passe.
Non, bien sûr,
Mais ça arrive.
Bon, c'est un avocat parisien, je le disais, Raphaël Constant. Il est très médiatique, très apprécié des médias. On l'invite souvent sur les plateaux de télévision. C'est un homme d'origine modeste qui a réussi à se tailler une vraie place dans le milieu parisien, qui vit dans un atelier d'artiste. On l'imagine un peu bobo. Il y a beaucoup de Richard Malka dans le personnage, non?
Il y a forcément un peu de Richard Malka, comme dans tous mes personnages. Il y a aussi du Richard.
Ah, même chez les criminels, même chez les experts, même chez l'avocat de la partie adverse.
En tout cas, il y en a beaucoup dans le tyran.
On va y venir
dans Isidore Astry.
Oui,
on met de soi dans chacun de ses personnages. Alors là, il y a une résonance particulière parce qu'il est avocat, et donc forcément, j'ai mis de ma pratique du métier dans ce personnage-là. Mais néanmoins, c'est pas moi. Et par ailleurs, on peut pas dire que j'ai été très indulgent à l'égard de ce pauvre Raphaël Constant.
Non, c'est sûr. Alors c'est un célibataire endurci. Il est assez inexpérimenté dans les choses de l'amour. Lorsque démarre le roman, il va en connaître une vraie histoire dans le roman parallèle. Parallèlement au procès. Alors c'est un type, vous le décrivez très précisément, qui reçoit ses clients les pieds sur son bureau, qui collectionne les super-héros, et surtout qui explique, le narrateur, est un homme qui fait du bien à ses clients. Alors ça m'a surpris, cette expression-là. Pour vous, Richard Malka, le métier d'avocat, c'est de faire du bien aux gens qui vous payent?
Non. Non, c'est pas ça, mais pour le coup, là j'y ai mis un peu de moi.
Oui.
C'est comme ça que je procède dans ma vie professionnelle ou personnelle.
Ah, les pieds sur le bureau, c'est vrai.
Ah oui, les pieds sur le bureau, c'est vrai, les super-héros aussi.
Oui, ça m'étonne pas.
et une peut-être une capacité empathique pour essayer de faire du bien, mais c'est jamais totalement désintéressé, pour être honnête.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on attend d'être payé en retour en monnaie d'amour ou d'autres choses.
Oui, mais d'ailleurs les honoraires apparemment c'est quand même moins important pour la caste avocats que l'aura médiatique, la popularité,
pour certains,
la capacité à concentrer la lumière, quoi.
Ah oui, pour certains, oui, chacun a son moteur et il est différent. Mais pour certains, oui, la satisfaction égotique prime sur le porte-monnaie.
Alors, Raphaël Constant défend donc Oscar Rima, ce pédiatre qui a fui son pays, qui s'appelle donc l'Astrasie, un pays que vous avez imaginé. Bien sûr, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il se trouve. On connaît en revanche très bien le tyran qui le dirige. Il s'appelle Isidore Astry. Il est donc allé jusqu'à donner son nom au pays dont il a pris la charge. Il a été élu de façon totalement démocratique. Hein, voilà, vous nous racontez sa naissance, son adolescence, et vous le mettez en scène, en particulier dans ce dialogue avec un de ses amis d'enfance qui s'appelle Sidéo. Il lui expose dans ce dialogue quelques-unes de ses vues politiques. Nous sommes page 70 de votre roman.
Lorsque la grande démocratie d'Athènes a banni Dionysos, le dieu du vin et de l'ivresse, il est revenu sous la forme de Sparte, société guerrière et autoritaire. Depuis des milliers d'années, cette histoire se vérifie. Dès que les hommes bâtissent une société tolérante, ils se piquent de vouloir en éradiquer le mal sans s'apercevoir qu'ils s'amputent eux-mêmes. Ils veulent atteindre la pureté divine plutôt que d'accepter leurs conditions humaines. Toujours ce besoin de croire à plus grand que soi. Le mal revient alors bien pire que lorsqu'il était toléré et régulé. La dictature prend la place de la démocratie et la guerre celle de la paix. Pour qu'une tyrannie s'installe, il faut le consentement du peuple. Ensuite, il pleure. Bien sûr, pour qu'une communauté humaine accepte de voir restreindre ses libertés, il faut avancer masqué, sous de grands principes, mais au fond, personne n'est dupe. Il n'y a qu'une chose que les hommes préfèrent à la liberté, c'est l'esclavage.
Isidore Astry contenait de moins en moins ses émotions. Il s'emportait et les gardes étaient terrifiés d'assister à ce spectacle peu habituel.
Te rappelles-tu notre étude de marché, Sidéo ? Celle dont je te parlais dans la lettre ?
Isidore ne laissa pas à son ami le loisir de répondre.
Nous pensions, toi en croyant jouer, moi sérieusement, que pour entraîner l'Occident dans une régression démocratique, les thèmes porteurs seraient la protection des citoyens contre la corruption, celle des femmes contre les hommes, et de la terre nourricière contre l'espèce humaine. La défense des plus pauvres, ayant déjà été utilisée par le camarade Staline, nous l'avions laissée de côté. Transparence, vertu, humilité, les trois piliers d'une nouvelle croyance, d'un nouvel idéal. Sous la bannière de ces thèmes, j'ai conquis le pouvoir. Regarde ces millions de manifestants de Berlin à Séoul. Ils s'y retrouvent tous. L'histoire est en marche.
Alors, soit on rit, soit on a les cheveux qui se dressent sur la tête. Richard Malkas, le discours quand même fait froid dans le dos si on le prend vraiment au premier degré. À partir de quel matériau est-ce que vous avez construit justement cette idéologie, cette théorie politique que vous avez appelée vous-même l'astracisme ?
J'ai interrogé le passé, j'ai regardé le passé, j'avais déjà travaillé sur le communisme dans le cadre de mes bandes dessinées, et j'ai regardé les totalitarismes d'aujourd'hui aussi, l'islamisme radical, et puis j'ai essayé d'imaginer celui de demain. Et ce qu'on constate, c'est que les tyrannies ne s'installent jamais, les dictatures ne s'installent jamais en disant au peuple, on va vous enfermer, on va vous priver de liberté, et tout va aller très mal. Elles s'installent, elles trouvent des thèmes porteurs, les thèmes de l'époque. Donc j'ai essayé d'imaginer quels seraient les thèmes de demain qui seraient exploitables, et je suis tombé sur transparence, vertu, humilité, une petite dose d'écologie, d'égalitarisme homme-femme, et
d'anticapitalisme, avec la référence aux élites cosmopolites, vocabulaire qu'on entend depuis des années et des années.
Voilà, tarte à la crème d'une certaine gauche. J'ai mélangé tout ça, et je me suis dit que le tyran, en tout cas, fait une étude de marché, se dit voilà, c'est ces thèmes-là que je vais utiliser pour avancer sous l'étendard du bien, pour séduire le peuple, pour m'installer, et ensuite, comme Isidore le dit, le peuple pleure, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière.
Oui, voilà. Alors, ça a séduit effectivement dans son pays, mais ça séduit même ailleurs, dans le monde, en Europe notamment, et singulièrement en France, parce que la classe politique, les intellectuels, les médias, pour une partie d'entre eux, soutiennent cette idéologie-là.
On a soutenu le maoïsme, le stalinisme, la révolution khmer, et il se trouve toujours des intellectuels pour soutenir, et il y a un chapitre qui est consacré...
Oui, c'est assez drôle d'ailleurs, parce
pour soutenir les pires régimes du monde. On soutient aujourd'hui Chavez, d'un certain côté de la politique française. C'est un dictateur, c'était un dictateur. Mais on soutient encore son régime. Il y a des gens qui soutiennent Erdogan, d'autres Poutine. C'est la nature humaine aussi.
Mais alors, quand on creuse un peu plus loin, Richard Malka, quand même, pas de sexualité hors mariage. Et pour ceux qui sont qualifiés de débauchés, castration chimique pour les hommes, internement psychiatrique pour les femmes, fin de la reproduction sexuée, ça va quand même très très loin. Ouais. Et puis, le symbole même du régime, c'est ce fameux cache-visage pour les adolescents au moment où ils arrivent à à la puberté. Ouais. Alors, on est obligé, avec l'actualité française et puis avec vos dossiers à vous d'avocat, de penser au voile.
Évidemment, ça faisait partie de mes réflexions, mais plus largement, ce sont tous les dogmatismes que j'essaie d'englober, tous les ismes, toutes les religions, parce que toutes les religions essaient de mettre un voile sur mes libertés. Elles veulent me dire ce qu'il faut que je mange, comment je dois m'habiller, quelle doit être ma sexualité. C'est pas spécifique à l'islam, pour le coup. Évidemment, le voile, il y a un écho, parce que là, il s'agit de voiler les adolescents de 14 à 18 ans en leur apposant un masque, ce qui fait que l'ego serait soumis au collectif à un moment où l'adulte est en formation, et ça efface aussi la différence entre les sexes, puisque le masque est asexué. Donc, j'ai adapté ça au monde d'aujourd'hui. Il y a tout ça dans mes réflexions. Il y a l'islam, mais il y a aussi toutes les religions. Alors, et tous les dogmatismes politiques.
Et l'objectif de ce régime, c'est la pureté. Alors, pureté, c'est un mot qui sonne peut-être agréablement quand on réfléchit pas trop aux oreilles des uns et des autres. Et en fait, on se rend compte que rien n'est pire que la recherche de la pureté.
C'est ce que vous avez lu dans le passage. C'est une histoire vieille comme le monde. Il y a une aspiration de l'homme à la pureté, à la vertu, à la transcendance, à plus grand que soi. C'est une nécessité, parce que sinon c'est trop dur d'être seul, d'être confronté à la mort. Et c'est la phrase de Dostoïevski, c'est pas la mienne. Il n'y a qu'une seule chose que l'homme préfère à la liberté, c'est l'esclavage. On a besoin d'un cadre. C'est beaucoup plus confortable que quelqu'un, une religion ou un dogme vous dise ce qu'il faut faire et comment il faut se comporter dans la vie. Donc vous assemblez ce besoin de transcendance à cette nécessité d'un cadre, et à mon sens, vous voyez comment vous pouvez être séduit par une doctrine dogmatique.
Vous m'en direz des nouvelles.
VMDN avec Richard Malka pour son roman Tyrannie, paru aux éditions Grasset, le livre d'un écrivain, on le disait, mais aussi le livre d'un avocat, d'ailleurs même à Isidore Hatzri, ce tyran promoteur de cette idéologie immonde qu'on vient de développer. Eh bien, vous lui trouvez une excuse, on va pas dire laquelle, on va laisser un peu le suspense pour le lecteur, mais on va seulement dire qu'il a eu une histoire familiale assez singulière et assez compliquée. Mais c'est important, ça, pour l'avocat écrivain que vous êtes, de trouver une excuse à votre anti-héros.
Peut-être que je vais vous faire froid dans le dos, mais je pense que c'est mon personnage préféré dans ce livre, Isidore Hatzri.
Vous aggravez votre cas.
Parce que c'est tout le propos de ce livre, c'est de regarder sa part d'obscurité, de pas l'exclure, de la regarder en face, d'essayer de la civiliser, de la dresser. J'ai de la tendresse pour l'impureté humaine. Ouais. Alors évidemment, c'est un tyran monstrueux, mais effectivement, il a une histoire assez douloureuse et une fin.
Ça fait circonstance atténuante, quoi.
Oui, il y a une fin assez difficile aussi.
Bon, n'allons pas trop loin. Non. Bon, il y a aussi, alors j'allais dire son fondé de pouvoir, qui s'appelle Georges Emer Talaf.
Lui, il est horrible.
Voilà, c'est le secrétaire général du ministère de la Transparence et de la Vertu. Alors c'est vrai que c'est un sale type, mais c'est un type extrêmement intelligent, d'une telle laideur. Que vous nous obligez là aussi à être un peu compassionnel vis-à-vis de lui.
C'est ce qu'on vit dans les salles d'audience. On se rend compte quand on est dans une salle d'audience qu'on peut avoir de l'empathie pour le pire des criminels. Parce que on explique son parcours, parce qu'on vit avec lui pendant des jours, parce que il y a toujours des raisons, parce que c'est un être humain, ça reste un être humain. Et on se rend compte aussi parfois que les victimes ce sont pas forcément des gens bien, parce que ça peut tomber sur n'importe qui d'être victime, sur des gens bien comme sur des gens pas bien. Et donc on se rend compte que tout est beaucoup plus complexe qu'il peut n'y paraître, qu'il y a rien qui est tout à fait noir ou tout à fait blanc, et c'est ça que j'ai voulu aussi donner à lire dans ce livre.
Oui, c'est vraiment tout le côté très psychologique, le sens de la psychologie que vous avez en tant qu'avocat, qui vous a permis aussi de nourrir chacun de vos personnages. Alors dans un autre genre, il y a aussi Maître Chenon. Alors Maître Chenon, c'est l'adversaire du héros Raphaël Constant, c'est l'avocat du pays en question, l'avocat de la Stracie. Là aussi, j'imagine que toute ressemblance avec un personnage ayant réellement existé serait complètement fortuite.
On va dire ça.
On va dire ça. Bon, voilà, c'est un personnage...
J'ai pas envie d'avoir de problème.
Oui, bon, voilà, vous craignez un procès, vous-même,
Si, ça arrive. J'ai défendu Georges Kiechmann contre mon confrère Metzner, regretté, qui l'avait poursuivi en diffamation dans le cadre des affaires Bettencourt.
Voilà, Georges Kiechmann qui a été votre mentor. Oui. D'une certaine façon, il y a quelques petites références quand même aux leçons qu'il a pu vous donner, Richard Malka.
Absolument.
Alors vous donnez effectivement dans
pas
ce roman...
Pas de sexe avant de plaider.
Ah bah voilà, c'était la dernière question que j'avais prévue.
Ça c'est Georges.
Ah, ça c'est Georges, voilà. Pas de sexe la veille d'une plaidoirie, donc ça c'est pas... voilà, je veux pas entrer dans votre vie privée, mais c'est une règle que vous continuez évidemment à appliquer.
Avant les grands procès, toujours, il faut garder son influx nerveux.
D'accord, et avant les petits procès, non.
Moins.
Donc quand on est un avocat...
Heureusement, je plaide pas beaucoup.
D'accord, très bien. Donc, quand on est un client fortuné, c'est sûr, mais les petits procès, parce qu'il y a des gros et des petits procès pour vous, Richard Malka?
Non, il n'y a pas de petits procès, et j'ai toujours une angoisse terrible avant de plaider, que ce soit un petit ou un grand procès. Après, il y a quand même des choses qu'on maîtrise avec le temps et l'expérience un peu plus que d'autres.
Alors, on va vérifier justement avec vous quelques-uns des traits que vous prêtez aux avocats parisiens correspondent réellement à la réalité. Donc, pas de sexe la veille d'une plaidoirie, vous me dites réalité.
Mais ça, c'est Bossuet qui disait « il ne faut jamais tirer avant un serment ».
D'accord, voilà, très bien, ça aussi c'est le sens de la formule. Il n'était pas avocat, Bossuet. Hein. Des égos forcément surdimensionnés chez les avocats, roman ou réalité ?
Réalité.
Une grande culture ?
Bah, si possible, ça c'est pas forcément unanimement partagé, mais ça donne de la profondeur à sa réflexion, à la plaidoirie, à la défense. Vaut mieux avoir de la culture, quelle que soit sa profession.
Des vrais bourreaux de travail ?
Oui.
C'est pas un mythe. Non, on peut pas être un paresseux contenter justement de surfer sur son petit succès médiatique.
Ah non. Non, c'est un métier où on travaille énormément. C'est un métier libéral en plus, donc vous avez pas de sécurité. C'est un métier où les horaires sont plutôt de 70 heures que de 35 par semaine.
Donc des gens organisés, là aussi, c'est pas du roman, c'est de la réalité.
Oui, ça vaut mieux.
Bon, des gens torturés.
Pas toujours, non, ça c'est ça. Alors là, il y a tout, la complexité de l'humanité, la diversité de l'humanité se retrouve dans la profession d'avocat. Il y en a qui sont très simples, d'autres très torturés. En général, les torturés, on les retrouve plus à faire du pénal qu'à faire du civil ou des affaires.
D'accord, donc vous êtes un torturé, Richard Malka.
Ça, c'est pas à moi de me juger moi-même. C'est...
Oui. Mais à travers Raphaël Constant, vous le faites un petit peu vous-même.
Oui. En tout cas, torturer, non, c'est peut-être un grand mot, mais je sais pas. C'est
en
pas
tout cas,
moi
c'est
de...
un métier où il faut se poser des questions.
Ah oui, ça oui. Il faut douter.
Il faut douter.
Il faut douter de tout.
Y compris
toujours.
De son client.
Y compris de soi-même.
Y compris de soi-même. Les avocats seraient aussi des gens qui, pendant un procès, seraient capables de maigrir à vue d'œil, de perdre leur sommeil et d'en devenir malades au sens propre du terme. Roman ou réalité, Richard Malka?
Alors ça pour le coup, c'est moi, mais j'en connais d'autres. Mon confrère Dupont-Moretti, que j'aime beaucoup et avec lequel j'ai plaidé à plusieurs reprises, est totalement angoissé avant de plaider, quelle que soit sa notoriété actuelle, et je l'ai vu avant un procès être malade, se rendre malade, parce qu'on a une responsabilité folle, on joue la vie des gens, ça pèse sur nos épaules, quand on est perfectionniste, quand on est fier, quand on est orgueilleux, ça empêche de dormir, les jambes tremblent quand vous vous levez, c'est terrible. Moi j'ai envie de vomir avant de plaider de grandes audiences. Quand j'ai plaidé pour Georges Kiechmann, qui était mon mentor, c'était horrible. Quand j'ai plaidé les caricatures de Mahomet et qu'il y avait 400 journalistes derrière moi et que l'enjeu, c'était le droit au blasphème, j'en ai pas dormi pendant des semaines.
Richard Malcar, on va marquer une courte pause pour le flash d'information. On va continuer à parler de votre passion, de votre métier, de littérature, donc d'écrit, mais aussi d'oral, d'art oratoire, des mots, de la parole, de la voix, avec vous dans la seconde partie de l'émission, avec notre second invité, Bertrand Perrier. Lui aussi est avocat et il a publié chez Jean-Claude Lattès « La parole est un sport de combat ». Et vous m'en direz des nouvelles.
Direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Toujours avec Richard Malca, avocat, scénariste de bande dessinée et désormais romancier, puisque son premier roman Tyrannie est disponible aux éditions Grasset. L'histoire d'un procès d'assises que l'on suit au fil des pages avec un accusé réfugié politique, un président de cour un peu malade, un public qui réagit, des médias à l'affût des coups de théâtre, et Dieu sait s'il y en a, hein, avec des témoins que l'on croit être décisifs le mercredi qui impressionnent et que la partie adverse pulvérise le lendemain, jeudi. Vous décrivez d'ailleurs, Richard Malca, le procès d'assises comme la rencontre de l'intensité pure, des symboles de la justice et d'un destin en suspens qui produit une alchimie unique. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire avec vos propres mots, avec votre propre vécu, en quoi cette alchimie du procès en cour d'assises est-elle unique ?
Oui, quand vous êtes pris dans l'intensité, dans la dramaturgie, dans le tragique d'un procès de cour d'assises, et j'ai vraiment essayé de mettre le lecteur au centre de la salle d'audience, quand vous y êtes, comme avocat, comme spectateur, comme juge, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Vous avez une bulle hors du temps, hors de l'espace. On peut vous dire, votre maison est en train de brûler, vos enfants sont malades, vous n'en avez rien à faire. Rien n'existe. C'est hallucinant, mais il y a un effet de vampirisation du cerveau humain qui fait que plus rien n'existe pendant le temps du procès. Et vous rentrez chez vous et vous êtes dans le procès, vous travaillez le lendemain, vous dormez à peine, vous vous levez, vous allez directement au procès. Pendant comme ça, une semaine, deux semaines, vous êtes en dehors du temps.
Voilà, et vous ajoutez, seuls deux individus résistent à cette magie par devoir. Ils portent des robes noires, s'observent comme des bêtes sauvages. Il s'agit donc des avocats, ils ne résistent pas complètement. Donc, si je vous ai bien suivi, Richard Malca. En tout cas, il y a donc dans ce duel, dans ce roman, un vrai duel d'avocats. Hein, un duel qui tient à la fois de la stratégie globale sur le long terme et de la tactique méticuleuse. Il s'agit vraiment de s'adapter à ce que fait l'autre, avec pour arme le droit, mais aussi la parole, les mots, la rhétorique et l'éloquence. Et de tout cela, on va parler avec vous également. Bertrand Perrier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes avocat, vous aussi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous enseignez l'art oratoire à Sciences Po et à HEC et vous participez au programme Eloquentia en Seine-Saint-Denis. On va y revenir. Vous êtes aussi l'auteur chez Lattès d'un ouvrage intitulé « La parole est un sport de combat ». Alors quand dans son roman, Richard Malca use d'un vocabulaire militaire, il parle d'armes, d'attaques, de défaites, de capitulations, même de balles qui sifflent, vous n'êtes pas très surpris ?
Ah non, c'est effectivement la bataille judiciaire et plus que jamais dans un prétoire, la parole est un sport de combat au service de l'autre, contre l'adversaire, pour essayer de le convaincre de la justesse et peut-être même de la justice de sa thèse. Et donc, évidemment, la parole est de façon paroxystique un sport de combat.
Un sport de combat est donc une arme qu'il faut savoir utiliser à bon escient.
Bien sûr, et comme toute arme, elle peut aussi avoir ses dérives.
Alors, le risque, justement, c'est quoi ? C'est de trop ou de mal parler ? Parce qu'en argot, un avocat, ça se dit un baveux ou un bavard. Donc, on se dit qu'il faut quand même se poser à soi-même des limites.
Ah bien sûr, il faut que la parole soit utile, qu'elle soit pertinente. D'ailleurs, l'avocat ne parle pas à tort et à travers dans un procès. Il y a des moments de parole et des moments de silence, mais il faut être toujours aux aguets pour ne pas laisser passer l'occasion d'une parole pertinente.
Mais il y a aussi ce qui se passe avant le procès, au moment de l'instruction. Par exemple, il y a quelques jours, Richard Malca, beaucoup de vos confrères, beaucoup de pénalistes se sont insurgés contre la façon dont l'avocat de Jonathan Daval, maître Schwerdorfer, s'était exprimé devant les médias. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que un avocat se doit de ne pas de se taire ? en particulier en début de procédure.
Non, alors d'abord, j'ai aucune légitimité pour juger de la défense d'un confrère. Je suis pas bâtonnier.
D'autres s'en sont chargés avant
oui,
vous.
Oui, mais je trouve que c'est pas bien. Voilà. Après, faut faire attention quand on parle aux médias. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas. C'est quelque chose qui parfois est absolument nécessaire et de plus en plus dans une société médiatique. Donc, ça fait partie de notre rôle de le faire. Mais ça répond à des codes particuliers, c'est un métier particulier, ça peut se retourner très très vite contre vous, contre votre client. C'est un art qu'il faut apprendre à maîtriser.
Oui, un bon plaideur peut être un mauvais communicant, Bertrand Perrier.
Ah oui, absolument, ce sont deux arts complètement différents. Parler à un juge et parler à un journaliste, ça obéit à des codes presque inverses.
Ah bon ?
Chez le journaliste, il faut simplifier les choses et peut-être forcer le trait, alors que devant le juge, c'est le royaume de la subtilité, de la vérité. Et donc, on peut effectivement être très bon sur les marges du palais et très mauvais dans une salle d'audience.
Alors, la salle d'audience, précisément, on va commencer par cela. Une audience pour vous, Richard Malka, c'est quoi ? C'est un rapport de force ou c'est un rapport de séduction ?
Ah, les deux. Cicéron, qui est notre maître à tous, avait théorisé ce que devait être l'art de l'avocat. Il faut savoir plaire, il faut savoir émouvoir, il faut savoir convaincre. Donc il y a la séduction et il y a la guerre.
Voilà, et c'est précisément ce que vous nous expliquez, ou plutôt ce que votre narrateur explique au lecteur, page 316 de votre roman Tyrène.
Docere, délectare, movere. Instruire, plaire, émouvoir. Les trois règles de la rhétorique selon Cicéron. L'avocat du gouvernement Astrid explora chacun de ces registres avec virtuosité. Les mots s'enchaînaient à la perfection et cette machinerie galvanisait l'avocat qui ressentait son pouvoir. Il emmènerait son auditoire où bon lui semblait. Ces instants de grâce étaient les plus merveilleux d'une vie d'avocat. Une drogue puissante. Chenon, à l'apogée de son talent, aurait sa dose lors de cette audience. Chenon maîtrisait l'art oratoire plus finement que Raphaël. Il contrôlait ses silences, alternait les tons pour éviter l'ennui, savait brutaliser ou caresser les jurés au mot près. Il adaptait à son public la fluidité de ses paroles et l'érudition de ses références afin que le talent n'écrase pas. Il était l'un des rares avocats parvenant à ne pas se répéter, car une bonne idée ne s'énonce qu'une fois. Il évitait de parler de lui comme les trop nombreux cabots du barreau, était capable d'inventer des citations ou de convoquer les classiques, de chuchoter puis de tonner. Il accélérait son débit pour emporter la salle, puis ralentissait pour ne pas l'épuiser. Il jouait de sa voix, grave, claire, puissante, même dans ses murmures. Il avait lu les préceptes du traité du sublime qui, dès le 1er siècle, énonça les règles immuables de l'éloquence. Parmi elles figuraient les trois vices de tout orateur: l'enflure des mots et des sentiments, la puérilité de la pensée qui conduit à plaider au-dessous de l'intelligence de son auditoire et, enfin, le faux emportement qui n'est que du bruit. Il évita ces trois écueils.
Alors Bertrand Perrier, vous êtes d'accord avec ces grands principes, ces trois écueils qu'évoque le narrateur du roman de Richard Malka ?
Ah bah je comprends pleinement maintenant pourquoi Richard Malka nous a dit en première partie d'émission qu'il avait mis tout lui-même dans cet avocat. Quelle belle description, quel autoportrait magnifique de Richard Malka. Bah non, évidemment, tout ce qu'il dit est totalement vrai.
Mais alors, les faux emportements, moi, je voudrais qu'on bondisse là-dessus, parce que moi, quand je lis faux emportements, je pense à effet de manche. Donc, c'est-à-dire, les grands effets que les grands avocats, peut-être, dans notre temps, ont pu faire dans les prétoires. Ça marche plus, les effets de manche?
Non, je crois que ça appartient au passé et qu'aujourd'hui, les juges sauraient décrypter cela. Personne n'est dupe d'un faux emportement et celui qui utiliserait cette stratégie serait un peu versé dans le ridicule. Je crois qu'aujourd'hui, les plaideurs sont plus simples, parfois plus techniques et plus à hauteur d'homme que dans la théâtralité qui est un peu grotesque.
Bon, Éric Dupond-Moretti, que vous évoquiez tout à l'heure, il a aussi quand même justement cette colère qui monte en lui. Mais lui, c'est un vrai emportement,
oui,
alors.
Oui, c'est... Je suis d'accord avec Bertrand Perrier, les audiences, les plaidoiries deviennent beaucoup moins théâtrales qu'elles ne l'étaient il y a quelques décennies ou quand on a commencé. Ça marche plus. Les effets de manche, ça sonne faux. Ça sonne ridicule et c'est voilà, notre art évolue aussi. Chez Dupond-Moretti, non, il y a une grande sincérité quand il parle, ça sonne pas faux du tout.
Alors, il explique aussi votre personnage qui est donc avocat, que s'occuper à la fois des jurés populaires, ouais, et des magistrats, ah oui, du jury professionnel, c'est pas du tout la même chose.
Non, ça c'est la difficulté des assises. En correctionnel, on a en face de soi que des juges professionnels. Donc on sait leur parler, on a les mêmes codes juridiques, on connaît la même matière, on va directement là où on sait qu'il faut aller. Et on connaît un peu leur psychologie parce qu'on la partage. Mais quand vous devez parler en même temps à des juges professionnels avec ces codes-là et à des jurés qui ne connaissent rien au droit, qui pensent différemment, dont la mécanique intellectuelle est différente, vous devez avoir deux discours complètement différents pour essayer d'emporter la conviction de toutes ces personnes. Ouais. C'est compliqué.
Et s'adapter au public, a fortiori lorsque le public s'écrit au pluriel, Bertrand Perrier, c'est un sacré challenge et c'est la base de la communication.
C'est absolument essentiel, c'est pour cela qu'il faut se réserver toujours une part d'improvisation dans la parole pour pouvoir dans l'instant réagir au message que l'on vous renvoie, des yeux qui se ferment, des sourcils qui se froncent, tout ça, ça doit impliquer un changement de pied, insister, faire autrement, et donc c'est pour ça qu'il faut se laisser cette part d'improvisation.
Donc part d'improvisation et en même temps il faut avoir du métier, et donc ça s'apprend.
Ah mais improviser ne s'improvise pas, et il faut avoir beaucoup travaillé en amont, avoir beaucoup réfléchi à l'argumentation que l'on veut développer pour se laisser la liberté de trouver dans l'instant les mots qui l'incarneront le mieux.
Alors vous racontez dans le livre, Bertrand Perrier, que pour devenir comme vous avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, il faut passer un concours d'éloquence,
et oui,
la conférence du stage. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors, il y en a deux. Il y a la conférence du stage du barreau de Paris, ou des autres barreaux d'ailleurs, qui sont des concours d'éloquence, qui proposent des sujets de pure improvisation ou de pure fantaisie, avec des sujets parfaitement vains, mais qui sont une école de la rhétorique et de la conviction. Moi, j'ai eu Le pire est-il à venir, ou Les voitures rouges sont-elles plus rapides ? C'est vous dire que la réponse à ces questions n'a finalement aucun intérêt. Et puis, il y a la conférence des avocats au conseil, qui est un peu plus scientifique et juridique, où l'on débat de questions de droit et les grandes questions, où l'on replaie les grandes questions qui ont agité les tribunaux dans l'année précédente.
Est-ce qu'il y a une jouissance physique à plaider ?
Physique, non. En tout cas, moi, je ne la ressens pas. On connaît tous, évidemment, la phrase que Badinter emprunte à Torres, qui est « plaider, c'est bander et convaincre, c'est jouir ». Donc, il y a peut-être quelque chose de la jouissance, mais elle n'est pas physique, évidemment. Ce qui est formidable, c'est ce moment où, intellectuellement, bien sûr, on sent que on est capable d'emmener son interlocuteur avec soi, dans son monde, dans son univers, dans ses références, dans son argumentaire. Et là, oui, il y a un vrai plaisir intellectuel de, voilà, je vais faire un peu ce que je veux avec vous.
Oui, Richard Malka, beaucoup de travail et beaucoup de stress avant, et une forme de jouissance pendant ?
Ah oui, oui, bah oui, parce que c'est, je rejoins ce que dit Perdran, quand on plaide, que ça se passe bien, en fait, on a l'impression de rentrer dans le cerveau des gens auxquels on s'adresse, et de les amener un peu là où on veut, et quand ça se passe comme ça, c'est vous avez l'impression d'être Dieu.
Ouais, et puis après il y a le contre-coup, hein, ça
après vous effondrez.
Voilà, c'est, physiquement c'est pas évident.
C'est une descente.
Ouais.
C'est
et là on pense aussi à certains comédiens qui sont en scène, qui suent sang et eau, qui donnent vraiment tout sur scène et qui en sortant dans les coulisses effectivement s'effondrent complètement, Bertrand Perrier.
D'ailleurs, oui, vous dites avec cette réserve que pour l'avocat, je dirais, c'est encore pire, puisque le comédien joue le texte d'un autre, et quand il sort de scène, il redevient lui-même, et finalement, ce qu'il a dit est dans un monde fictif et n'a pas beaucoup d'importance. Alors que l'avocat, d'abord, dit ses propres mots, et les dit dans l'intérêt d'un autre. Et donc, la responsabilité est encore plus grande. C'est cet avocat fameux qui, son client est condamné à 3 ans de prison, et il dit « nous les ferons ». oui, non, c'est pas nous, c'est lui qui va les faire. Donc la parole est encore plus chargée d'impact pour l'avocat et donc de stress.
Et pourtant, vous écrivez, Bertrand Perrier, c'est bien connu, les avocats sont des comédiens frustrés.
Oui, parce que nous mettons des robes et nous racontons la vie des autres.
Ouais, ça je suis pas d'accord.
Ah, vous êtes
non,
pas d'accord.
Mais, non, mais non.
Sur la dimension comédien ou sur la dimension de frustration, Richard Malka?
Ah oui, j'ai aucune frustration de comédien, non, ça me plairait pas du tout.
Mais il y a une vraie part de comédie dans l'acte de plaider.
Il y en a une, là encore, ça a tendance, je crois, à disparaître un peu avec la théâtralité. Ça appartient un peu au passé.
Moi, je dirais qu'il n'y en a pas, en réalité, de dimension de comédie. Encore une fois, on dit les mots d'un autre dans le monde réel. Donc, ce que l'on dit a un impact dans la réalité. Ce que je dis si je joue la comédie n'a aucun impact sur le sort de Créon et d'Antigone.
Voilà, en parlant de comédien, en voici un vrai, et chanteur en plus.
Dans la vie, il y en a qui n'ont pas de vanne et qui errent comme des ânes en plaine. Il y en a d'autres qui sont des pédants et qui passent fiers comme un petit banc. Quant à moi, je suis plein de connaissances parce que j'ai des compétitions, des compétences. Il y en a dont le langage est toujours sans jambage, mais moi je parle toujours avec jambage. Pensez à l'éloquence, c'est l'art de savoir bien causer.
Pourquoi ?
Parce que...
Ah bon ?
Mais oui. Ah, l'éloquence indique la personnalité.
Pourquoi ?
Parce que...
Ah bon ?
Oui. Il faut retourner le champ des idées. Si l'on veut qu'il soit cultivé, il ne faut pas dire des balivernes. Prendre des bougies pour des lanternes. L'éloquence, moi dans ma famille c'est courant.
Mais pourquoi ?
Mais parce que...
Ah bon ?
Ah, elle comprend rien. Ah, l'éloquence, j'allocutionne familièrement. Ça fait que pour causer j'ai pas de mal. J'ai des allocations familiales. En vertu de ceux qui précèdent, tout comme dans le principe d'archipel. Bien causer sera ma profession. Je manquerai pas ma convocation. Pensez, faut bien dire que je n'ai pas de mal pour trouver des paroles verbales. Car j'ai dans mon cerveau toutes sortes de grands mots tels que isopropyl alyl acétyluré. Isopropyl alyl acétyluré. Celui-là, c'est un grand mot. Hein. Ce qu'il y a, c'est pas bien commode de le placer dans la conversation. Mais après, ça va... L'éloquence, tout comme l'a dit La Rochefoucauld.
Oui, mais pourquoi ?
Ben parce que...
Ah bon ?
Ah, c'est pourtant clair. Ah, l'éloquence, c'est dire beaucoup de choses en peu de mots.
Oui, mais pourquoi ?
Mais parce que...
Ah bon ?
Ah ben tu commences à m'énerver, tu sais. C'est dire comme disait Mirabeau. Fontaine, je boirai pas au tonneau. C'est dire comme le proverbe arabe. Tomber de Caraïbes en syllabes. Ah, l'éloquence, c'est antique, c'est vieux comme mes robes.
Oui, mais pourquoi ?
Mais parce que...
Ah bon ?
Ah là là, c'est malheureux de causer avec des gens qui sont pas instruits. Ah, l'éloquence inonde toutes les parties du globe. D'où je conclus que l'intelligence vogue sur les flots de l'éloquence.
Ben oui, mais pourquoi ?
Mais parce que stultorum infinitus est numerus.
Ah bon ?
Mais évidemment.
Ah, l'éloquence sur RFI, vous avez reconnu évidemment la voix de Bourvil, VMDN, aujourd'hui avec deux avocats et écrivains, Richard Malka pour un roman, Tyrannie chez Grasset, et Bertrand Perrier pour La parole est un sport de combat chez Jean-Claude Lattès. Alors ce livre, Bertrand Perrier, c'est aussi un plaidoyer pour l'oralité, dont vous estimez qu'elle n'est pas assez mise en valeur en France.
Oui, bien sûr, nous avons des trains de retard sur nos camarades anglo-saxons là-dessus, qui, dès le plus jeune âge, familiarisent les enfants et les adolescents avec la prise de parole en public, alors que chez nous, elle est chargée d'une grande angoisse qui est à la mesure de sa rareté dans l'enseignement.
Oui, c'est-à-dire qu'en France, on a tendance à survaloriser l'écrit par rapport à la prise de parole.
Oui, oui, pour des raisons historiques ou sociologiques, on a divinisé vraiment l'écrit, la dissertation, la copie, par rapport à l'argumentation orale et aux qualités oratoires. Et je me réjouis que le nouveau baccalauréat rééquilibre un peu les choses et qu'il y ait ce grand oral qui, enfin, permet de revaloriser les compétences orales qui seront de toute façon nécessaires dans la vie professionnelle ou dans l'enseignement supérieur. Et c'était une grande énigme et un grand paradoxe que cette compétence essentielle du monde contemporain soit complètement oubliée des études.
Alors vous parlez de votre propre parcours et vous dites, et on a un peu de mal à vous croire lorsqu'on vous entend parler depuis le début de cette émission, que pendant très longtemps vous avez vous-même hésité à parler, à vous exprimer devant les autres.
Oui, oui, j'ai été un grand timide, je le revendique, je n'ai pas de problème à le dire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, c'était pour rassembler les petits exercices exercice que j'ai fait au fur et à mesure de mon parcours pour me familiariser avec la prise de parole en public. J'ai choisi d'ailleurs le métier d'avocat un peu comme un défi aussi, parce qu'il y avait une composante d'oralité dans ce métier. Ouais. J'ai passé ces concours dont j'ai parlé tout à l'heure aussi comme un défi sur moi-même pour vaincre la timidité. Et puis après, c'est comme quand on a la foi des convertis. Vous savez, vous êtes converti et puis alors maintenant, vous avez envie de faire partager à tout le monde votre foi nouvelle et ardente.
Alors justement, vous enseignez l'art oratoire en Seine-Saint-Denis en particulier, hein, dans le cadre du programme Eloquentia. Alors à qui est-il destiné et quels en sont les enjeux ?
Le programme Eloquentia, c'est une formation à l'art oratoire et un concours d'art oratoire qui le suit. La formation est destinée aux élèves de l'université de Paris 8, Saint-Denis, mais de tout cursus. Hein, y a des gens qui font de l'histoire, des gens qui font du droit, des gens qui font de la science politique, des relations internationales, du théâtre, toutes sortes de choses. Et puis le concours, lui, est ouvert à tous les jeunes de Seine-Saint-Denis.
Et pourquoi la Seine-Saint-Denis ? Est-ce qu'il y a une dimension sociale aussi ?
Alors, il y a évidemment une dimension sociale voilà. dans le fait d'aller porter la parole en Seine-Saint-Denis, avec l'idée aussi que si je le fais pas à Sciences Po ou à HEC, d'autres le feront. Si nous, à Eloquentia, on n'est pas là en Seine-Saint-Denis, bah personne ne le fera, alors même que la compétence orale, la connaissance des codes de la prise de parole en public est essentielle encore plus pour des jeunes qui cherchent à s'insérer professionnellement, socialement, économiquement, presque politiquement. Et donc, elle est encore plus nécessaire. Il est donc encore plus important qu'on aille au bout de la ligne 13 pour porter la parole.
Alors, cette aventure pédagogique, cette aventure humaine aussi, a été racontée dans un film qui a été présenté au Festival de Cannes. Vous avez monté les marches
Moi non, mais étudiants... De Seine-Saint-Denis l'ont fait, c'était beaucoup plus important que eux le fassent.
Voilà, le film était signé Stéphane de Freitas et Lajli, un film intitulé « À voix haute, la force de la parole ».
Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia, qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même.
Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde.
Allez, on va faire un pour-contre. Allez, Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres.
Donc moi, je suis pour 3 raisons.
0 argument. Alors ça, c'est de la merde. Voilà, ça suffit.
Allez, hop là.
En fait, vous êtes des gros ch'tarbés, quoi.
J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, j'aime faire ressentir des émotions.
Vous pensez quoi du fait que je veuille devenir acteur ?
Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux.
Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme.
La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre.
On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout.
Demain, la tête haute, je marcherai fière.
Non, non, non. C'est à chier. C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire.
La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait, je suis Charlie. Maintenant, à partir de ce soir, je dirais aussi, je suis Sonny.
Voici venue l'heure du jugement dernier. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un triomphe ?
Alors là, Bertrand Perrier, on a glissé imperceptiblement du combat, hein, le combat de la salle d'audience qu'on évoquait tout à l'heure, jusqu'au débat. Et d'ailleurs, c'est pas du tout la même chose. Hein. Vous dites, débattre, c'est le contraire de se battre.
Oui, d'abord le débat suppose l'écoute de l'autre, la capacité à recevoir le message de l'autre, sinon ce sont des messages qui se croisent, et si on est absolument hermétique à la pensée de l'autre, c'est pas un vrai débat.
Donc pour savoir parler, il faut savoir écouter.
Ah ben c'est la base de tout, bien sûr, et beaucoup de jeunes d'ailleurs qui viennent au programme Eloquentia disent je suis venu pour apprendre à parler et j'ai appris à écouter.
Alors ce livre c'est aussi un manuel de ce qu'il faut et de ce qu'il faut pas faire, avec même des idées de petits exercices.
Mais
c'est,
oui.
C'est très très pratique. Bon, sérieusement, tout le monde peut y arriver.
Ah oui, ah bah, si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Oui. Alors, il y a une part de don. Il faut pas se le dissimuler. Il y a une part de don. Mais comme dans tout, dans le piano, dans la peinture, dans le marathon, il y a une part de don. Maintenant, ma conviction, c'est que le travail permet, peut-être pas d'être un orateur qui va galvaniser les foules, mais au moins d'exprimer clairement simplement et de façon authentique un message convaincant. Alors, et c'est ça, ça suffit pour avoir une sorte de guide de survie dans le monde contemporain.
Bon, à condition de travailler, alors l'un de ces guides, en l'occurrence, c'est le dictionnaire. Hein. Vous insistez beaucoup sur le vocabulaire, hein, sur la capacité qu'on a ou pas à introduire des subtilités dans son langage et dans son discours.
Mais oui, parce que le langage, c'est évidemment des mots, et plus on a un lexique large, plus évidemment on peut exprimer sa pensée de façon subtile et claire, et donc je crois effectivement que le meilleur ami de l'orateur, c'est d'abord le dictionnaire.
Quand vous rédigez une plaidoirie, quand vous préparez une plaidoirie, Richard Malka, vous plongez dans le dictionnaire, vous allez rechercher des livres pour choisir des mots d'une grande précision, d'une grande subtilité, vous appartenez à cette école-là ?
Non. Non, mais moi aussi j'ai un rapport à l'oralité qui est compliqué, c'est pas forcément très naturel pour moi, je préfère écrire que de parler en public, c'est une violence que je me fais à chaque fois.
Ah oui.
Quand je prépare mes plaidoiries, et précisément j'écris tout à la virgule près parce que ça me rassure, parce que sinon j'y arrive pas, ce qui n'empêche pas d'improviser ensuite, mais j'ai besoin d'avoir ma base écrite, quand j'écris ma plaidoirie, je cherche plutôt à trouver les mots qui vont provoquer les émotions que je veux susciter. Et donc non, c'est pas dans la subtilité et le raffinement des mots et c'est même pas dans la beauté de la plaidoirie que je mets mon effort, c'est dans sa précision.
Voilà, et puis ce qui est important aussi, il y a les mots, il y a la voix, mais il y a aussi tout ce qui est visuel. Vous écrivez, Bertrand Perrier, parler, c'est d'abord être vu.
Oui, bien sûr.
Sauf à la radio.
Oui, mais dans un prétoire ou dans une réunion ou dans un débat, et on est d'abord vu, et donc c'est pour ça qu'il est important de maîtriser aussi le geste, le regard, la posture. Et c'est aussi une façon de se rassurer soi-même, d'être en capacité d'avoir un souffle suffisant. Et donc, mais je partage ce que dit Richard Malka sur la préparation. Il faut avoir beaucoup préparé pour pouvoir se laisser la liberté d'improviser.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir dans cette émission. Bertrand Perrier, La parole est un sport de combat, est paru, on le rappelle, chez Jean-Claude Lattès. Merci à vous, Richard Malka.
Merci.
Tyrannie chez Grasset. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec le comédien Xavier Gallet qui est à l'affiche du théâtre du Lucernaire à Paris pour Guérisseur, une pièce du dramaturge irlandais Brian Friel, dans une mise en scène de Benoît Lavigne. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.